L'envolée au procès pour de l'évasion de la centrale de Moulins en février 2009, procès qui se déroule à la cour d'assises de Lyon. Et là, nous vous relatons le lundi 8 avril au matin. Alors, cette journée a commencé par le rendu du délibéré de la demande de mise en liberté de Sylvie Picciotti, hein, qui avait été faite la semaine d'avant. Et évidemment, comme on pouvait s'y attendre, c'est un refus. Ensuite, la journée va être dévolue à l'audition des personnes qui se sont fait soit simplement voler leur voiture, soit qui se sont fait voler leur voiture et qui ont été prises en otage pour que Christophe et Omar puissent se déplacer et ainsi, d'abord, dans un premier temps, regagner Paris, circuler dans le nord de la France, puis dans l'est, puis revenir vers Paris. D'ailleurs, au sujet de ce périple, le président a commencé à demander à Christophe, avant même l'audition des témoins, mais où vouliez-vous aller? Et Christophe lui a répondu que pour eux, le but était de rester en mouvement pour ne pas se faire tirer dessus jusqu'à ce qu'il récupère un sac qui devait lui être remis en banlieue parisienne. Omar, lui, précise juste, moi j'allais où il me demandait d'aller, j'étais le chauffeur. La première personne auditionnée, hein, de la première partie civile de la journée, c'est Monsieur Peters. Voici ce qu'il dit.
Je sortais d'un repas. À la sortie d'Amiens, j'ai été bloqué par une voiture. Au début, je n'ai pas été frappé. Puis, comme je résistais, j'ai pris un coup de matraque. Mon petit-fils était dans la voiture. Ils ont été étonnés de la présence de l'enfant. Ils l'ont rassuré et se sont très bien comportés avec lui. Moi, je lui disais qu'il n'y aurait pas de problème. Je n'avais pas peur des agresseurs eux-mêmes. J'avais surtout peur de croiser un barrage de gendarmerie. Le périple a duré plusieurs heures, pendant lesquelles ils ont essayé de prendre du gasoil. À 5 h du matin, ils sont partis en me laissant ma carte bancaire et mes clés. Je veux dire encore que les agresseurs ont vraiment tout fait pour que ça se passe bien. Je n'ai pas eu peur d'eux, je n'ai pas été braqué. Ils m'ont juste fait voir une arme. Je pense que c'est Monsieur Top qui m'a donné ce coup de matraque. Alors le président insiste tant qu'il peut sur le fameux coup de matraque, mais vous avez eu le visage ensanglanté, et il revient sur l'enfant. Il n'avait que 5 ans à l'époque, il a dû crier, non? Et Monsieur Peters ajoute, du coup, que leur comportement était satisfaisant, l'atmosphère était de plus en plus détendue au fur et à mesure du voyage, et ils n'ont pas été méchants. Il dit encore, je leur indiquais des sorties plus faciles où l'on pourrait éviter des barrages de police. Ils se sont arrêtés sur une aire pour acheter des sandwiches. Ils m'en ont proposé un. Et là, le président ne peut pas s'empêcher de préciser que c'était quand même avec son argent à lui. Ils ont aussi pris de l'eau pour que je me lave le visage et ils m'ont laissé aller seule aux toilettes. Mon petit-fils s'est ensuite endormi et quand il s'est réveillé, tout était terminé. Je n'ai pas eu de séquelles psychologiques, j'ai juste eu un acouphène après le coup de matraque et ça m'a obligée à prendre quelquefois des somnifères. J'ai bien compris qu'il préférait mourir que de retourner en prison. C'est pour ça que je craignais un barrage. J'étais inquiet parce qu'il m'avait parlé d'explosifs. Je leur ai presque imposé un itinéraire sur l'autoroute pour éviter la police. Christophe dit, le fait que Monsieur Peters n'en rajoute, pardon. Et là, après le témoignage de Monsieur Peters, là, Christophe dit, le fait que il n'en rajoute pas, ça en ajoute un peu plus à ma honte. Et dans le débat qui suit, sur qui a donné ce fameux coup de matraque, Christophe refuse de dire qui l'a donné. Il veut pas spécialement distribuer de responsabilité. Si c'est Omar ou c'est lui, ça change rien de toute façon. Mais ça n'empêche pas Omar de préciser que c'est effectivement lui qui l'a donné, mais que c'était pas un coup de matraque, que c'était un coup de poing et qu'il tape fort. C'est Ripper qui ensuite dira, cette nuit-là était très désagréable pour vous et votre témoignage est très impressionnant. On est plus habitué dans les cours d'assises à voir des victimes jeter de l'huile sur le feu, à gémir. Vous venez raconter avec objectivité, avec presque de la compassion, ce que vous avez vécu. Et Peters lui répond, ça doit être dans ma nature, je suis médecin, et j'ai compris qu'il voulait juste fuir la prison.
Et comme Monsieur Peters disait qu'il craignait, oui, les explosifs, enfin l'effet des explosifs dans la voiture en cas d'accident, etc. Ripper rappelle à tout le monde qu'un explosif ne peut pas exploser sans qu'il y ait un détonateur. Puis ensuite, on a eu le fils de Monsieur Peters, qui s'était porté lui aussi partie civile. Bon, lui, là, il a rien vu, hein, il n'était pas du tout présent et il n'a pas grand-chose à dire, en fait, puisqu'il était témoin de rien. La seule chose, c'est que donc dans la voiture se trouvaient et son père et son fils. Il a beaucoup de mal à parler, il se met à pleurer, expliquant que maintenant son fils a quelques perturbations du sommeil et que parfois il a des absences et il ne suit pas bien à l'école. Mais bon, lui non plus, finalement, on n'en rajoute pas tant. La seule chose qu'on note, c'est encore une fois, c'est que les victimes directes, eh ben, elles ont, là, en tout cas dans ce procès-là, si on enlève les flics et un maton, tous les conducteurs de voitures, font des descriptions relativement sobres, pas très inquiets de ce qui leur est arrivé, et que c'est les autres, ceux à qui n'était rien arrivé, qui font les descriptions les plus pénibles en
Qui
disant.
sont les plus traumatisés de l'affaire.
Certes, moins il leur arrive, plus ils flippent. Et c'est ce qui, par exemple, l'audition qui suit, c'est l'audition de Cathy Prévost. Elle s'est fait voler sa voiture à Arras à 5 h du matin, alors qu'elle distribuait des prospectus. Donc les deux arrivent et ils lui disent donne-nous tes clés, sinon il va t'arriver des bricoles. Et en fait, au début, Omar, surtout, hein, c'est lui qui le dit, voulait avoir un otage pour gagner du temps et pour ne pas être localisé par les flics qui visiblement avaient perdu leur trace. Mais en fait, elle, évidemment, elle résistait, elle ne voulait pas partir avec eux. Il y a eu un moment d'hésitation, elle s'est mise à pleurer et Omar, du coup, l'a lâchée, c'est ce qu'il dit, hein, je l'ai vu pleurer, bon, j'ai pas réussi à l'emmener. À cause de ses larmes, et ils sont partis avec la voiture, laissant Catherine Prévost donc à côté. Et cette femme continue à parler de la scène comme d'un enlèvement. Hein, c'est alors qu'elle n'a pas du tout été enlevée. Et elle ajoute, dès que je reçois une lettre du tribunal, hop, je revis la scène. Alors nous, le commentaire qu'on se faisait entre nous, c'était que peut-être il valait mieux qu'elle arrête d'ouvrir les lettres du tribunal,
Ou
comme
qu'ils
ça.
arrêtent de lui en
Voilà,
envoyer.
ça serait plus sympa pour elle. Voilà, ça c'est pour le lundi matin. Le lundi après-midi, donc les auditions continuent, et juste on remarque que le flic qui est, enfin un des flics qui est devant le public, à l'entrée, au moment où les accusés rentrent dans le box, lui il regarde la salle et il pose ostensiblement la main sur son arme en ayant dégrafé l'étui comme s'il était prêt à dégainer, quoi. Mais ça, il s'amuse à faire des petits coups de pression comme ça, relativement souvent, histoire de montrer de jamais, pour que jamais les jurés oublient la dangerosité des prévenus. Donc suit l'audition de Monsieur Dubois, hein, qui lui aussi est parti civil, Monsieur Dubois, le conducteur suivant. Alors lui, son véhicule a été percuté, pardon, sur l'autoroute. Il est légèrement pare-choqué par derrière, il s'arrête, il sort, il ferme son véhicule. Il se dit, on sait jamais avec tout ce qui se passe, il refuse de donner les clés. Alors Christophe insiste, visiblement c'est Christophe qui est devant, avec le pistolet, il insiste, et puis donc à nouveau il refuse. Alors il dit, il m'a menacé de me mettre une balle dans le genou. Et ils lui disent qu'ils sont les évadés de Moulins. Ça, c'est le témoignage de Dubois. Hein. Et finalement, ils balancent les clés sur l'autoroute en espérant qu'un camion roule dessus et les rendent donc inutilisables les clés. Comme ça, on ne pourra pas lui piquer sa bagnole. Omar réussit à récupérer les clés et il part. Lui, il dit, je n'ai pas ressenti à ce moment-là de la dangerosité. La dangerosité. Je l'ai ressenti après, mais après, c'est bien plus tard, hein, c'est une fois qu'il aura été libéré. Donc, Omar se met au volant, hein, comme la plupart du temps, et Christophe et Monsieur Dubois sont à l'arrière. Et en fait, Christophe et Monsieur Dubois discutent pendant plusieurs heures, ça dure un moment. Ils tournent beaucoup, hein, en rond sur l'autoroute, en faisant évidemment pas un petit cercle, mais un grand cercle. Et donc, Dubois dit. Au cours du voyage, je ne dirais pas qu'on a sympathisé, mais presque. On a beaucoup discuté de nos enfants, de nos parcours de vie. Et au cours du voyage, Christophe m'a dit que chaque minute de gagnée, c'était une année de liberté. Et on a fait quelques pauses, et quand on faisait une pause, je le voyais, il respirait à plein poumon, il profitait de ce moment. Alors, bon, il a quand même une petite tendance aussi, lui, à se présenter comme un super-héros en racontant cette histoire. Il se présente bien comme un mec froid et calculateur qui a surtout géré la situation. C'est-à-dire, il y a un moment où au fur et à mesure des histoires qui sont racontées, il se dit, ah, là, il va peut-être pas falloir que je fasse l'imbécile, que je les aide. Donc, par exemple, à un moment, Christophe Lomard lui avait demandé s'il y avait un système de géolocalisation dans la voiture. Il avait d'abord dit non, puis après, il s'est dit, oh, si jamais il y a un problème et qu'il s'aperçoit qu'il y en a un, il vaut peut-être mieux que je dise qu'il y en a un. Donc, il a fini par le dire de lui-même. Après cette course, hein, qui a duré quand même quelques heures, il est relâché quai de Bercy à 21h30. Et il précise lui-même qu'ils lui ont laissé toutes ses affaires en lui disant merci et à bientôt. Et il dit aussi que M. Kider avait accepté, mais ça c'est plutôt dans le voyage, hein, avait même accepté au début, qu'il envoie un SMS professionnel parce qu'il fallait qu'il prévienne son patron et qu'il ne pourrait pas aller bosser, il avait un rendez-vous important. Il a même eu le droit de faire ça. Donc au moment où il est lâché à Bercy, dans Paris, avec toutes ses affaires, il leur dit, vous savez que la première chose que je vais faire, c'est d'appeler la police. Et il lui a répondu, oui, on est tout à fait au courant que vous allez appeler la police. Bon. Donc lui, il n'est pas très très traumatisé quand même, on peut pas dire, dans tout ce qu'il raconte. Alors, le juge insiste, hein, pour qu'ils disent qu'ils avaient un rendez-vous à Paris. Ça, c'est juste pour étayer le fait, auprès des jurés toujours, que leur histoire était quand même un peu organisée et qu'il y avait des complices. Parce que s'ils avaient un rendez-vous, c'est forcément qu'il y avait du monde à l'extérieur. Alors ensuite, lui dit, voilà, oui, ils m'ont dit qu'ils avaient un rendez-vous, mais j'en sais pas plus. Et il précise quand même autre chose, il dit que quand il appelle là, donc il descend de la voiture, il appelle la police, il est immédiatement interrogé. Il dit, le policier qui m'a interrogé m'a demandé si je connaissais le syndrome de Stockholm, car il trouvait que j'étais trop conciliant avec mes ravisseurs. C'est vrai, mais le mieux ça se passerait pour eux, le mieux ça se passerait pour moi, c'est ça qu'il se disait. Et lui, il précise, quand on est dans l'histoire, on maîtrise, mais ça n'a pas été pareil pour ma femme. Sa femme, elle n'était absolument pas dans l'histoire. Lui, à 21h30, il a appelé sa femme et lui a expliqué qu'elle était prise en otage. Et il lui dit au téléphone, regarde la télévision, c'est les évadés de Moulins. Donc sa femme, donc celle qui vient témoigner juste après, alors elle n'a pas du tout la même tête, elle a une tête hyper paniquée, quasiment drogadicte, quoi, hein, pleine de la tête dépressive, quoi. Voilà, chercher le mot.
Dépressive, elle refuse de regarder le box, elle ne veut pas les voir.
Rien à voir avec la tranquillité de son mari. Donc elle dit, j'ai allumé la télé, il disait que les évadés de Moulins étaient en Belgique, et là j'ai eu peur, parce que donc il y a une version contradictoire. Et puis elle dit que les gendarmes sont arrivés chez elle à minuit, et qu'ils sont arrivés comme des sauvages, en vociférant, en la prenant pour une hystérique. Il y avait les trois enfants à l'étage, et il croit pas encore qu'il était pris en otage par les évadés. Devant elle, il se moquait des policiers parce que, donc, sur cette histoire de est-ce qu'ils sont en Belgique, est-ce qu'ils sont pas en Belgique, où ils sont, etc. Et elle, donc, du coup, ça la panique encore plus et elle s'est dit ensuite que ça devait être, lui aussi d'ailleurs, à cause de la guerre entre les différents services. Voilà. À nouveau, lui précise que maintenant son premier enfant dort avec une mini batte de baseball et que les deux autres n'ont pas l'air spécialement touchés par l'histoire. Le psychologue dit que c'est. Parce qu'ils ont été examinés par un psychologue, et le psychologue a dit que c'était un préjudice plus familial que professionnel. Et,
Personnel.
Que personnel.
personnel, pardon, ouais. Et que l'exploitation médiatique des faits ont fait ressurgir des angoisses plus profondes chez sa femme. La maison a été. Alors ensuite, il a fallu qu'il sécurise la maison, sa femme a flippé, sa femme ne peut plus dormir en voiture. Enfin, il y a plein de choses que sa femme a du mal à aller au stade, enfin, etc. Sa femme a un gros flip. Mais vraiment, c'est pas exagéré que de dire que elle partait quand même sur l'ensemble de toutes ces choses-là avec un sérieux handicap. Hein. Voilà.
Mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle a été traumatisée par les gendarmes, en fait, essentiellement, puis par les journalistes qui se sont pointés le lendemain chez elle, quoi. C'est ça qui lui a fait peur plus qu'autre chose, en fait.
Cette Madame Dubois. Et du coup, après, c'est le président qui demande à Monsieur Dubois qu'est-ce qu'il retient de toute cette histoire. Et Dubois, il répond: Je prends ça comme un événement improbable et surréaliste. J'ai surtout l'impression d'un gâchis. Il n'y avait pas grand-chose de prévu. Il semble, on a même l'impression, du coup, à la fin de son truc, qu'il regrette l'échec de l'évasion. Et il dit même, mais qu'il comprend pas pourquoi est-ce qu'ils sont pas partis à l'étranger, pourquoi ils sont pas cachés dans les bois, pourquoi ils sont restés sur l'autoroute. Pour lui, c'était pas la chose la plus discrète à faire pour ou la plus efficace pour réussir. Et Christophe lui répond à ce moment-là qu'ils s'étaient pas évadés pour se terrer dans un sous-bois et que ça leur faisait du bien de bouger. Alors là, c'est Winter, donc avocat des parties civiles. Et de l'UFAP,
Ouais.
qui essaye de se constituer, qui interroge Dubois et qui lui dit vous avez discuté dans la voiture, mais il vous a parlé du fait qu'il y avait des enfants au parloir. Et là, Dubois qui lui répond justement, les enfants, c'était un point de rapprochement entre nous. Et pour lui, il dit pour moi, ça prouve que c'était une improvisation complète, cette histoire, parce qu'il y avait sa femme et sa fille au parloir. Donc il voit pas du tout Christophe comme quelqu'un qui ferait ça tranquillou devant tout le monde en s'en foutant, vu la discussion qu'ils ont eue tous les deux, mais plus que du coup c'était la preuve que c'était là ou jamais et qu'il n'a pas vraiment eu le choix. Ensuite, c'est le président qui demande à Christophe de lui parler du sac qu'il devait récupérer. Et Christophe lui répond, l'option pour moi c'était ni de me couper les veines, ni de me livrer. La personne qui devait me donner les armes me les a volées. Il contenait des outils pour continuer la cavale. Il dit, normal, j'en avais besoin de ces armes pour faire des trucs classiques, des hold-up, aller chercher des copains en prison. Il y a tellement de gens qui souffrent depuis des années en prison, des mecs qui n'ont même pas de sang sur les mains, des citoyens maltraités. Là, c'est l'avocat général qui prend la parole et qui continue de cuisiner Christophe. Et là, Christophe en a marre et lui répond, ça s'arrête là pour les explications, c'est fini, j'en ai marre. Et dans les petites phrases encore que Dubois va dire derrière de leur conversation qu'ils avaient eue dans la voiture et qui lui reviennent au fur et à mesure, il dira aussi oui, Christophe m'a raconté qu'il avait une lourde peine et que c'était pas juste. Là, c'est Ripert qui demande à Dubois si il jette ses clés pour sauver sa voiture ou pour faire échec à l'évasion. Et il répond que c'était pour sauver sa voiture. Et il raconte aussi que Christophe lui a dit que Christophe lui dit donc dans cette voiture, dans ce trajet ensemble, que tout ça dans sa vie, ça a commencé par la bêtise d'un juge qui l'a condamné à 30 ans, alors même que le ministère public en avait requis 20, et que s'il était devenu délinquant, c'était pour sauver quelqu'un de sa famille qui était en train de mourir. Là, il y a Omar qui prend la parole et qui décrit une atmosphère détendue dans la voiture lui aussi. Il raconte la scène du carjacking, n'est-ce pas? Où donc Christophe va à la voiture de Monsieur Dubois sur l'autoroute et que comme Monsieur Dubois voulait pas lui donner les clés, Christophe revenait vers Omar alors qu'il avait le flingue à la main, lui disant il veut pas me les donner et que ça faisait déjà 3 fois qu'il faisait le coup. Et que du coup, c'est Omar qui y va en s'énervant, en disant vous savez qui nous sommes, on est les évadés de Moulins, ça suffit là. Et c'est là qu'après, du coup, le mec va jeter les clés. Et Omar, il raconte aussi que pendant qu'il conduit, du coup, les deux, ils sont à l'arrière. Et à un moment, quand ils regardent dans le rétro, comme ça, ils voient Donc l'otage, monsieur Dubois, qui est en train de jouer avec le flingue à l'arrière. Et du coup, il hallucine complètement sur qu'est-ce qui se passait dans cette voiture-là. Dans ce cas-là, même Christophe, il voulait s'arrêter manger au restaurant avec l'otage, quoi. Et donc, ça, c'était la fin. Et après, il y a eu donc l'audition de madame Dubois, mais on l'a déjà dit. Et enfin, le président précise à ce moment-là qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, parce que Ripert l'a obligé au premier jour du procès à préciser quand il agissait en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Du coup, bah maintenant, il le dit quasiment 3 fois par jour. Donc, en vertu de ce pouvoir-là, il demande s'il peut interroger la femme de Dubois, qui n'est pas partie civile, en tout cas pas encore. Et du coup, voilà, c'est là qu'elle se dit victime des évadés, mais que son traumatisme, ce qu'on disait tout à l'heure, il vient bien plus des gendarmes qui débouchent chez elle en plein milieu de la nuit et de la pression des journalistes. Mais elle précise, elle dit « Oui, tout ça, effectivement, c'est les gendarmes et c'est les journalistes, mais ça ne serait pas arrivé s'ils ne s'étaient pas évadés. » Et Ripert lui répond « Mais on peut remonter loin comme ça. Ça, ce ne serait pas arrivé non plus s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait mis 30 ans à Christophe. »
Juste après, ça va commencer l'audition des flics. Des flics de la BAC qui ont arrêté Omar et Christophe, et qu'on tirait sur Christophe d'ailleurs, à la fin de la cavale, au petit matin, à l'entrée de la A86 à Fontenay-sous-Bois. La première audition, c'est celle de Monsieur Haguet, donc qui raconte sa version, et sa version, elle va immédiatement s'avérer mensongère, comme l'ensemble des versions des flics. Elles sont à la fois, elles ne tiennent pas la route, même toutes seules. Et quand on les compare les unes aux autres, on se rend compte qu'il y a vraiment d'énormes contradictions. Et puis, quand l'expert va venir, on s'en donne un résumé tout de suite, quand l'expert va venir, il va invalider l'ensemble, quasiment l'ensemble de tout ce qu'ils auront raconté. Selon M. Haguet, il est dans la voiture de la BAC, dans laquelle il y a trois policiers au moment de l'interpellation. Il y avait un appel à un général à 22h30, donc le soir d'avant, pour signaler le véhicule volé par les évadés de Moulins. Ils les repèrent à 5h du matin, eux. Ils prennent en chasse la voiture. Il y a une course-poursuite sur la 86. Deux poids lourds se doublent devant le véhicule Phaéton.
C'est la voiture de Dubois, du coup, ça.
C'est la voiture de Dubois, ouais. C'est une bonne bagnole, hein, c'est une bonne grosse berline. Et donc le fait qu'il y a deux poids lourds qui se doublent, ça l'empêche de passer. La Phaéton essaye de passer à gauche, au milieu, à droite, et finalement lui il dit la Phaéton nous percute à plusieurs reprises. Le flic dit qu'il essaie de tirer dans les pneus pour arrêter la Phaéton. La Phaéton passe sur la droite du camion, mais se retrouve coincée contre le mur. Elle est alors en roue libre contre le mur à faible allure. Il pense que c'est lui qui a fait arrêter la voiture en tirant sur les pneus. Mais il dit ensuite, ils sortent de la voiture, arme au poing. Top sort le premier, les mains en l'air. Il se couche à mes pieds. Et à ce moment-là, j'entends 4 coups de feu. Le truc complètement délirant. Omar dit tout de suite, c'est pas vrai, je me suis pas rendu. Je suis descendu de la bagnole. J'ai commencé à courir, vous m'avez tiré dessus et j'ai plongé pour éviter les tirs. Hein? Et il précise bien au flic, ça dit respecter la loi, mais ça ment comme ça respire. Ripert, donc évidemment, toujours là à l'affût, en trappeur de la moindre erreur, et là il a pu s'en donner un cœur joie. Ripert lui pose une série de questions. Il est conducteur. Il répond systématiquement qu'en fait il sait rien. Ripert lui demande alors, mais de quoi êtes-vous victime, vous? Alors lui, il se tient le menton comme ça, puis il dit, je suis victime du refus d'obtempérer. Voilà, non, alors celle-là, c'est là, comme si un flic dans l'exercice de ses fonctions, le fait que quelqu'un refuse d'obéir à un ordre, ça faisait de lui une victime. Ça vient de sortir, ça, c'est bien. Puis après, il se souvient qu'il a dit qu'il avait la tête qui avait cogné un peu sur le volant pendant l'accident. Et il dit, ah oui, puis je suis victime du choc. Voilà.
Ouais.
Omar, là, il arrêtait pas de lancer des petites piques, toujours juste, hein. Il lui dit, en fait, vous voulez juste du fric? Allez-y, touchez-le, votre blé. Moi, je m'en fous, j'en ai pas. C'est pas moi qui va payer. Omar précise que lui, il a demandé les caméras, enfin les films des caméras du tunnel, et qu'elles sont jamais apparues au dossier. Et quand il voit les flics qui s'en mêlent les pinceaux, il dit, c'est normal, hein, à force de mentir, on s'embrouille. Donc, dans cette équipe de la BAC, ils ont tous les trois des versions complètement embrouillées. Ils sont tous victimes d'un accident de voiture. Mais l'enjeu dans le procès, c'est qu'ils disent que la voiture des fuyards les percute, tandis qu'ils essaient de l'arrêter en tirant dans les pneus. Omar les contredit et dit que les flics les ont percutés et ont tiré par derrière. C'est important tout ça, on va le voir, parce que c'est ça qui détermine finalement la non-tentative d'homicide volontaire qu'ils diront, puisqu'ils diront à la fin, ouais, monsieur Kider, juste après Omar, donc, voulait nous tirer dessus, et on va voir que c'est complètement impossible, et que c'est eux qui ont procédé à une tentative d'exécution sommaire sur Christophe. Monsieur Grelot, qui est un autre là qui était dans la bagnole, chef de bord, répond à Christophe qui lui demande dans quelle main il tenait son arme, et le flic lui répond dans la main gauche. Et là, Christophe dit au juré, je suis droitier, et de fait, la voiture était derrière nous.
Ouais, en fait l'histoire, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'ils sont en chasse derrière la voiture. Et là, il y a un des flics qui dit qu'il a vu Christophe se retourner vers lui avec l'arme à la main, dans apparemment l'intention de lui tirer dessus, et que c'est pour ça qu'il a commencé à faire feu sur la bagnole, qu'ils étaient un peu sur le côté gauche de la voiture, comme ça, et qu'il a visé les pneus. En fait, bon, ça on le verra plus tard, mais en fait, il a tiré à hauteur d'homme sur une voiture en train de rouler, quoi.
Ouais.
C'est ça le truc.
Et d'ailleurs, le lendemain, on découvrira aussi, parce que donc cette équipe, elle prétend que c'est eux qui ont arrêté Omar. Parce qu'il y a un flic qui dit, j'ai couru, je l'ai rattrapé, et je lui ai mis mon pied
Sur la tête.
sur la tête. Hein. Ensuite, Ripper donc demande à ce chef de bord, là, de ce premier véhicule de flic, où il a tiré. C'est lui qui a tiré. Grelot répond qu'il n'a pas tiré à hauteur d'homme, car je suis derrière le passager, et si j'avais tiré, je prenais le risque de tuer, et dans ce cas-là, c'est moi qui me serais retrouvé sur le banc des accusés dans une cour d'assises. Ripper le dit, vous dites avoir vu un homme avec une arme à l'intérieur. Vous tirez au coup par coup 4 fois. Cette personne a-t-elle riposté à vos coups de feu? Non. Alors, Ripper est étonné, hein, du fait que quelqu'un se laisse tirer dessus sans riposter, c'est ça qu'il veut lui faire dire. Puis il ajoute, ces balles auraient pu blesser des gens à l'intérieur. C'est pour ça que vous y pensez tous les jours, parce qu'évidemment le flic, il avait chouiné en disant que c'était
J'y pense tous les jours.
un comme
Je suis
d'habitude.
traumatisée.
Et Ripper donc pose évidemment la question qui pose, il a bien raison systématiquement dans les procès où les flics sont impliqués, à savoir qu'en France, eh ben, la police a le droit de tuer, elle s'en sert. Il lui dit, pourquoi, si un individu qui tire sur une voiture de police sans la toucher est poursuivi pour tentative d'homicide, tandis qu'un policier qui tire sur une voiture au risque de blesser des gens.
Qui sont dedans, lui il n'est pas poursuivi. C'est comme quand ils prétendent qu'ils ont essayé de tirer sur les pneus arrière alors qu'ils étaient côte à côte, il y a tout un truc comme ça sur la position de la voiture, machin. Et après il y a Grelot qui dit que lui il y pense tous les jours à cette histoire, donc il fait le mec un peu traumatisé comme ça. Moi j'y pense tous les jours et tout. Du coup je sais plus qui c'est qui lui pose la question, je sais plus si c'est Ripper ou le président qui lui demande pourquoi il y pense tous les jours, quoi. Et lui il dit bah j'y pense tous les jours du début de l'interpellation jusqu'à la fin parce que c'était vraiment une belle affaire, quoi. Super belle affaire. Donc là-dessus, Omar il pète un plomb, il dit mais en fait on est du gibier pour vous, en fait vous faites des belles affaires sans nous. Voilà, on finit là-dessus le lundi.
Voilà, et on se retrouvera l'épisode prochain pour le mardi.